contient le passage biblique que nous allons, sur lequel nous allons méditer pendant quelques instants, et qui contient aussi un plan de ce que nous verrons dans ce texte de la Bible. Il s'agit du livre des Actes des Apôtres, chapitre 8, les versets 26 à 40. Maintenant, dans ce texte que vous voyez devant vos yeux en caractère en italique, vous voyez des petits chiffres. Si vous n'êtes pas habitué à lire la Bible, ça c'est le numéro de chaque verset. Ces chiffres n'étaient pas dans la Bible au début. Quelqu'un les a mis là pour qu'on puisse repérer plus facilement les phrases. Et de temps en temps, je vais me référer à certains versets en disant le verset 29. Donc, cherchez le petit chiffre et vous verrez. Nous allons donc lire ce texte de la Bible. Il s'agit d'un certain Philippe qui est un prédicateur de l'Évangile dans le premier siècle, juste après la mort et la résurrection de Jésus. Un ange du Seigneur s'adressa la parole à Philippe. « Lève-toi et va du côté du Midi. Sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert, il se leva et partit. » Et voici un Éthiopien, un eunuque, haut fonctionnaire de Candace, reine d'Éthiopie, et le surintendant de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer, et ils sont retournés assis sur son char et lisaient le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Avance et rejoins ce char. » Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe, parce que rappelons-nous que dans l'Antiquité, les gens avaient l'habitude de lire à haute voix. Notre habitude de lire silencieusement n'était pas vraiment connue. Je vous ai raconté une fois mon vieux ami, Monsieur Olliot, qui a grandi en Inde et qui, pendant son enfance, dans le bus, tout le monde avait un livre et tout le monde lisait, mais tout le monde lisait à haute voix parce qu'il ne savait pas qu'on pouvait lire sans le dire. C'était pas dans nos habitudes, en tout cas. Voilà, donc nous avons devant nous, je vous rappelle, un récit historique de quelque chose qui s'est passé. Et ça correspond exactement au fait que nous reconnaissons du temps. L'Esprit, donc, dit à Philippe, avance et rejoins ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Le prophète Ésaïe, donc un livre écrit 700 ans avant la venue de Jésus, qui prédisait la venue de Jésus, entre autres. Il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis ?» On peut imaginer, il court, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Et cet homme dans le char, il répondit, « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ?» Et il invita Philippe à monter s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Et voici une citation du prophète Ésaïe. « Il a été mené comme une brebis à l'abattoir et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'ouvre pas la bouche. Dans son humiliation, son droit a été supprimé et sa génération, qui la racontera ? Car sa vie est supprimée de la terre. » Voilà, le prophète qui parle de quelqu'un qui va être tué de manière injuste. L'eunuque prit la parole et dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète dit-il cela ? De lui-même ou de quelque autre ?» Alors Philippe ouvrit la bouche et commençant par ce texte, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils arrivèrent à un point d'eau et l'eunuque dit, « Voici de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé ?» Parce qu'apparemment, il reçoit ce message de Philippe et il croit. Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus est le Fils de Dieu. » Il ordonna d'arrêter le char, tous deux descendirent dans l'eau, Philippe ainsi que l'eunuque, et il le baptisa. Quand ils furent remontés hors de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus, alors que joyeux, il poursuivait son chemin. Quant à Philippe, il se trouva dans Azote, puis il évangélisa toutes les villes par lesquelles il passait jusqu'à son arrivée à Césarée. Donc, après ce baptême, l'Esprit indique, nous ne savons pas comment, à Philippe, « Allez, ça y est, pars et laisse cet homme continuer son chemin. » Et il continue joyeux. Nous voulons vraiment comprendre ce qui s'est passé ce jour-là, que Dieu nous a relaté dans sa parole, parce que ça raconte la manière dont une personne humaine est revenue à son Dieu, a retrouvé son Dieu. Et nous allons essayer d'examiner ce qui s'est passé en 5 points. Dans le premier point, est son étonnante recherche de Dieu et de la vérité. Voilà donc cet homme d'Éthiopie, il est eunuque, c'est-à-dire il a été castré pour pouvoir servir comme serviteur de la reine, c'est l'habitude dans ces empires à l'époque, et donc il est un peu une sorte de premier ministre. En tout cas, il est secrétaire de la trésorerie de l'Éthiopie, qui est à l'époque un grand empire. Ce qu'on appelle Éthiopie ici, il faut le comprendre, c'est en vérité la Nubie, c'est-à-dire le sud d'Égypte et le nord de Soudan, était, il y a 2000 ans, appelé l'Éthiopie. C'était un grand empire pendant 1000 ans, et un objet de curiosité constante de la part des Grecs et des Romains. Parce qu'ils savaient qu'il y avait cet empire reculé et très avancé, et pour eux, l'Éthiopie, cette Éthiopie, était un peu les confins, les limites extrêmes de la civilisation. Et donc, ils s'intéressaient beaucoup à ce royaume. En fait, les rois d'Éthiopie étaient considérés comme des incarnations du dieu soleil. Et ils avaient surtout un rôle cérémonial, c'est-à-dire qu'ils ne régnaient pas de manière pratique et concrète sur le plan politique ou économique. C'était un peu comme le roi de la Belgique, hein, qui, voilà. Excusez-moi si vous êtes belge. Mais la vraie administration du royaume était entre les mains de certaines reines, certaines femmes reines, qui avaient le titre de Candace. Alors, donc, quand vous avez vu dans le texte le mot Candace, ce n'est pas un prénom, elle ne s'appelle pas Candace, c'est son titre, elle est Candace. D'accord ? Donc, premier point. Son étonnante, je parle de l'eunuque éthiopien, son étonnante recherche de Dieu et de la vérité. Je voudrais vous dire quelque chose. Quand un homme ou une femme dans ce monde commence à chercher avec soif son Créateur, il y a un miracle qui se passe. Dieu lui-même est à l'œuvre. Et nous voyons ça dans la vie de cet homme. Il est éthiopien, mais regarde la peine qu'il se donne pour se rendre jusqu'en Israël. D'abord, il abandonne les dieux de sa culture et de son peuple. Et pour un fonctionnaire haut placé, c'est un peu risqué. Allez en Arabie Saoudite et abandonnez l'islam et vous verrez. Mais je vous dis que c'est la même chose un peu partout. Et donc, il abandonne à Pédémac, le dieu d'Éthiopie, qui est un dieu de guerre, qui ressemble à un lion, mais sauf avec un corps d'homme. Et il abandonne Œil de Ré, la déesse d'Éthiopie, qui protégeait l'empereur de ses ennemis en crachant des flammes sur eux. Voilà les dieux de ce peuple à l'époque. Mais il les abandonne. Regarde la dépense pour ce long voyage qui prend plusieurs semaines pour se rendre en Israël. Parce qu'il a dû entendre, comment vous me dites? Rappelez-vous qu'il y a des juifs dispersés un peu partout dans le monde. Déjà à cette époque, à cause de l'exil en Babylonie et le retour des juifs. Donc ils sont un peu partout, les historiens l'admettent. Et partout où ils vont, les juifs établissent des synagogues et ils parlent de ce Dieu, ce seul Dieu qui existe, qui est le Créateur infini et bon. Et donc cet eunuque, qu'il a dû avoir du contact, et Dieu, le seul vrai Dieu, travaille dans son cœur et il commence à se poser des questions. Nous savons qu'il a vraiment soif. Parce qu'il lit le prophète Ésaïe. Or, ce n'est pas comme aujourd'hui. Tout le monde a une Bible dans les milieux chrétiens. Et beaucoup de gens qui ne sont même pas croyants, ils ont une Bible quelque part à la maison. Mais rappelez-vous que ce n'est pas comme ça. Parce qu'il n'y a pas d'imprimante. Il n'y a pas de photocopieuse. Pour avoir le rouleau, parce que c'est un rouleau d'Ésaïe, il faut avoir un rouleau copié à la main par un scribe et ça coûte très cher. Mais heureusement, il est riche, ce bonhomme. Il est riche et puissant. Et il peut en acheter et on y voit sa soif. Il achète le rouleau d'Ésaïe et ce jour-là, il est en train de le lire. Nous voyons sa soif dans cette lecture. Parce qu'il vient de passer un moment à Jérusalem, parce qu'évidemment, c'était un moment de festival religieux où, selon la foi juive, tous les juifs devaient venir à Jérusalem à certains moments, trois fois par année. Et donc, il s'est rendu avec les juifs. C'était la coutume. Nous savons très bien par les historiens que les prosélytes, c'est-à-dire les non, les gens qui n'étaient pas hébreux, mais qui croyaient dans la foi des juifs, venez pour ces festivals aussi. Donc il est là, il a passé du temps, il a été probablement touché encore par tout ce qu'il a vu, tout ce qu'il a entendu, et il rentre, et il a le rouleau d'Ésaïe, et il est en train d'essayer de comprendre. Il est puissant, il est riche, il n'a besoin de rien sur le plan physique matériel, mais il est vide. Et quel bonheur quand un homme, une femme ou un jeune en arrive là. Je me souviens de Mamadi quand je vivais en Côte d'Ivoire. Mamadi était de la Guinée, un pays complètement musulman. Et merci Maxime. Voilà. Un pays complètement musulman. Il était venu étudier à l'université d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, où je vivais. Et un jour, je me suis rendu au logement de mon directeur pour le voir. J'étais complètement crevé dans cette chaleur africaine. J'avais un peu le cafard aussi. Je ne pensais pas que j'allais particulièrement bien spirituellement ce jour-là. Je ne me souviens pas du problème, mais en tout cas, j'étais là, j'arrive, mon directeur n'est pas là. Oh non, parce que je n'ai pas de voiture. Pour se déplacer, ce n'est pas facile et je devais le voir. Je me suis assis dans le garage de ce grand bâtiment qui appartenait à un groupe chrétien qui s'appelait la Ligue pour la lecture de la Bible. Mon directeur habitait au rez-de-chaussée et le directeur de la Ligue à l'étage. J'étais assis là, je ne voulais rien faire et voilà un étudiant qui arrive du dortoir en face. Et il vient, il me demande... est-ce que c'est ici un endroit chrétien, une organisation chrétienne? je m'intéresse au christianisme. Et moi, ça, c'est mon travail. Ça, c'est. Normalement, j'aurais dit, assieds-toi à côté de moi, je peux t'en parler. Mais je ne voulais pas lui en parler. Je ne voulais que m'apitoyer sur mon sort du moment. Et j'ai dit, bon, le directeur de la ligue habite à l'étage, allez le voir. Et pendant qu'il était là, un verset de la Bible m'est venu dans l'esprit comme ça. Un verset qui disait que si un grain reste seul, ne meurt pas, il reste seul. Mais si il meurt, il porte beaucoup de fruits. C'est-à-dire, si on l'enterre, il meurt, il porte beaucoup de fruits. Et je savais très bien que le Seigneur voulait que je meure à moi-même et à ma petite situation, et que je pense à ce jeune homme et son besoin. Donc, il est redescendu rapidement. Il a dit, il n'est pas là. Sa femme dit qu'il n'est pas là. J'ai dit, assieds-toi. Et nous avons commencé à parler. J'ai écouté ses questions. Et pendant les semaines et les mois suivants, Mamadi a commencé à venir chez moi, homme assoiffé. Et vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit que ce jour-là, quand je suis venu à ce bâtiment, ça faisait 2 ans que j'avais dans mon cœur le désir ardent de traverser ces 200 mètres du dortoir à ces bâtiments chrétiens, moi musulman, pour demander qu'est-ce que c'est que la foi chrétienne, mais j'osais jamais. Et ce jour-là, j'ai enfin eu le courage. Ce jour-là, le Seigneur m'a planté là aussi dans ma mauvaise attitude et il a fait son œuvre. Parce que Mamadi est devenue chrétienne quelques mois après, et selon ses dires, sa vie a été transformée. Mais la soif est un miracle. Vous savez que Blaise Pascal a dit ceci. Il a dit, il n'y a que trois sortes de personnes. Les uns servent Dieu, l'ayant trouvé. Ok, ça c'est la première sorte. Les autres s'emploient à le chercher, ne l'ayant pas trouvé. Est-ce que vous êtes dans une de ces deux catégories? Les autres, troisième catégorie, les autres qui vivent sans le chercher, ni l'avoir trouvé. Et Pascal dit, les premiers sont raisonnables et heureux, parce qu'ils ont trouvé Dieu, Dieu et le servent. Les derniers sont fous et malheureux, parce qu'ils ne l'ont pas trouvé et ils ne le cherchent pas. Ceux du milieu, dit Pascal, sont malheureux et raisonnables. Raisonnables parce qu'ils le cherchent, malheureux parce qu'ils ne l'ont pas encore trouvé. Et le problème dans notre société en France, et c'est comme ça ailleurs, c'est que à cause de ce que la Bible appelle le péché, naturellement, nous ne cherchons pas notre Dieu. Est-ce que ça vous parle? Mais Dieu vous aime et il a une manière de vous réveiller, comme il a fait pour cet eunuque. Juste un mot avant de passer au deuxième point. Dans la Bible, Dieu nous parle. Et il parle à un moment donné de cette façon. Écoutez bien. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est près. Que le méchant abandonne sa voie, que l'homme de rien ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura compassion de lui. À notre Dieu, qui pardonne abondamment. Deuxième point. L'étonnante manière dont la vérité parvient enfin à lui. Je lis à partir du verset 29. Si vous voulez retrouver, c'est dans la deuxième partie du texte. L'Esprit dit à Philippe, avance et rejoins ce char. Il lui avait déjà dit, lève-toi et va du côté du midi et sur telle route. Et une fois qu'il est là, il dit, avance et rejoins ce char. Philippe a couru et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter, s'asseoir avec lui. Quand Dieu met dans votre cœur la soif, le désir de le trouver, ça ne suffit pas, n'est-ce pas? Parce que dans votre cœur, laissé à vous-même, vous ne pouvez pas trouver, moi non plus. Donc c'est un miracle quand quelqu'un arrive à la vérité sur Dieu, parce qu'on dit beaucoup de choses sur Dieu aujourd'hui, n'est-ce pas? Vous pouvez trouver des dieux multiples dans ce monde. Vous pouvez trouver un dieu à votre sauce. Vous pouvez en faire en kit et fabriquer un dieu dans votre idée. Aujourd'hui, il n'y a rien de plus commun, mais il y a un dieu qui est vraiment là et il est ce qu'il est. Il n'est pas ce que je fabrique dans ma tête. Si je vais le connaître, il faut que lui, il me dise, il me révèle ce qu'il est. Et c'est donc un miracle quand Dieu conduit quelqu'un à la vérité sur lui. Comment est-ce qu'il le fait? Alors, je vous dirais que quand Dieu a l'intention de conduire quelqu'un à lui, il le conduit à un livre. Vous avez vu ce qui s'est passé avec l'eunuque? Il a dans sa main un livre. Le livre. La Bible. Je ne sais pas si vous savez aujourd'hui, parce que les médias ne le disent pas, ils ne vont pas le dire, mais partout dans le Moyen-Orient, des musulmans sont en train de venir à la foi en Jésus-Christ. J'ai souvent parlé avec des gens iraniens, égyptiens, algériens, marocains, qui me disent, et qui ont été eux-mêmes parmi ceux, qui sont venus à Christ dans ces 15 premières années. On dit que plus de musulmans sont venus à Jésus-Christ en abandonnant l'islam depuis 10 ans que pendant le temps entre le commencement de l'islam jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à il y a 10 ans. Il y a quelque chose d'énorme qui se passe. Et on nous dit que souvent, et c'est vraiment inhabituel, ces gens ont des rêves. Et souvent, un rêve comme quoi ils doivent... quelqu'un va le rencontrer avec un livre ou quoi. Pas toujours comme ça. Et moi, je vous dis, je ne m'attends pas à ce que ça se passe comme ça normalement. Mais ce sont des gens qui sont dans un endroit où personne, normalement, ne peut aller leur apporter une Bible, parce que c'est interdit. En tout cas, quelque chose de bizarre se passe. Je l'ai entendu tellement de fois maintenant que je crois. Mais ce qui est important pour nous, c'est que Dieu, si vous allez le trouver, il va vous amener vers la Bible. Voilà. Parce que le Dieu qui est vraiment là, il s'est révélé au fil des siècles par des prophètes inspirés par lui qui ont mis par écrit ce qu'il a dit aux hommes. Et vous me dites, pourquoi un livre? C'est très facile. C'est très facile. Les choses les plus importantes dans notre société, qu'est-ce que le gouvernement fait? On le met par écrit. Les lois, les édits, pourquoi? Parce qu'il faut que tout le monde l'entende de manière exacte. Il faut que ce soit gardé d'une manière permanente. Et ce qui se transfère oralement, ça se change par le téléphone arabe. Et Dieu nous aime, il veut que nous ayons son message d'une manière stable, claire. Et c'est le même message pour tout le monde. Ce n'est pas Dieu m'a parlé dans mon cœur et il m'a dit. C'est ici dans la Bible, c'est objectif. D'accord? Nous pouvons le comprendre avec l'intellect. Comme je vous amène à travers ce passage pour voir que voilà comment Dieu agit dans la vie de cet homme. D'accord? Il amène vers le livre. Un jour en Côte d'Ivoire, je devais aller à une ville qui s'appelle Daloa, à 4 heures d'Abidjan, et j'attendais le car, et un homme vêtu en blanc, mais vraiment en blanc, tout à fait en blanc, est venu s'asseoir à côté de moi. On a commencé à parler et j'ai appris que c'était un imam. Un imam de Timbuktu. Alors, Timbuktu, vous avez entendu parler de cet endroit, mais Timbuktu est une ville importante. C'est une ville au Mali, mais c'est considéré comme la Mecque pour l'islam de l'Afrique noire. D'accord? Donc, j'ai à côté de moi un imam de Timbuktu. On commence à parler et il me dit qu'il vient de passer quelques jours à l'hôtel à l'Abidjan et qu'il avait une Bible dans sa chambre et qu'il était tellement pris par ce qu'il a lu qu'il en a arraché quelques pages et qu'il les avait dans la poche. Je lui ai dit que j'étais pasteur chrétien et il était très étonné. Donc, il était avec un parent, un oncle ou un cousin. On est entré dans le car, sa place réservée était devant, moi derrière, mais à peu près 10 minutes après le commencement du voyage, le voilà qui vient vers moi et qui demande au monsieur à côté de moi, est-ce que vous pouvez échanger et aller là où j'étais, parce que je voudrais bien parler avec ce monsieur. Et on a passé 4 heures, moi et l'imam, qui voulait me parler de la foi chrétienne à cause d'un livre. Donc, mais le livre, souvent, ne suffit pas. Peut-être vous avez le livre et vous avez commencé à le lire. Mais parfois, on ne le comprend pas. Et vous voyez ici que Philippe lui pose cette question. Comprends-tu ce que tu lis? Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et donc, quand Dieu veut vous amener à lui-même, il vous amène au livre et souvent, il vous amène aussi à quelqu'un qui peut l'expliquer. Donc Philippe, guidé par Dieu, le rencontre sur ce chemin désert. C'est bizarre. Vous allez me dire, mais pasteur, pourquoi il était au temple? Il était au temple. Je crois qu'il faut remettre un coup la clim. Parce qu'il. Juste un moment, parce que je vois que les gens commencent à transpirer. Ouais. D'accord. Ok. Donc, je vais me presser. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas envoyé Philippe pour le rencontrer au temple? Philippe était là, sans doute, au festival. Et je pense que probablement, ça c'est une spéculation parce qu'il n'est pas dit dans le texte, mais réfléchissez, que maintenant c'est le moment de changement. Entre un moment où Dieu a un peuple qui est Israël, et jusqu'à ce que le Messie vienne, et puis il va envoyer la bonne nouvelle à tous les hommes, et son peuple sera un peuple international. Et donc ce n'est plus à Jérusalem qu'il faut adorer, ici ou là, ce n'est plus le temple qui est la maison de Dieu, d'accord? Et donc, il va pas, c'est pas un juif. Il va le rencontrer en dehors du temple, sur le chemin, en allant vers lui, pour lui indiquer que maintenant tu peux rencontrer Dieu n'importe où, par sa bonne nouvelle, par sa parole. D'accord? Donc, vous n'avez pas besoin de vous rendre à Jérusalem ou dans un autre endroit à Rome. Non. Dieu vous rencontre là où vous êtes. Et la dernière chose que je voudrais dire, et les deux derniers points sont plus courts, les trois derniers points, c'est qu'un vrai évangéliste chrétien marche comme ceci. Regarde ce que Philippe lui dit. Philippe ne commence pas à improviser, à lui raconter ses expériences, mais dans le texte, nous voyons au verset 34, l'eunuque prit la parole et dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète dit-il cela? De lui-même ou quelque autre. Alors Philippe ouvrit la bouche et commençons par ce texte, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Donc, le but du pasteur ou du chrétien qui vous aide à comprendre l'évangile, c'est pas de vous raconter mes expériences ou ceci ou cela, mais c'est de vous montrer ce que dit le texte biblique. Troisième point. Nous avons parlé de son étonnante recherche de Dieu et de la manière étonnante dont il a trouvé la vérité. Mais l'étonnant contenu de la bonne nouvelle qu'il entend. Qu'est-ce que Philippe lui dit une fois que il commence à expliquer? Alors, la bonne nouvelle, c'est que si vous vous êtes égaré de Dieu, et la Bible dit que c'est le cas de tout le monde, Dieu a une bonne nouvelle pour vous, et cette bonne nouvelle est une personne. Vous avez remarqué dans le verset 35. Alors Philippe ouvrit la bouche et commençant par ce texte, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Le message de la foi chrétienne concerne une personne. Je m'arrête. Il y a beaucoup de fausses versions du christianisme. Mais bien sûr, lorsqu'il y a du vrai, il y a toujours de la contrefaçon. Les hommes sont comme ça. Et parfois, nous rencontrons des fois, des religions, même des contrefaçons du christianisme, et le message, c'est un système. Pour revenir à Dieu, pour vous réconcilier avec Dieu, pour trouver Dieu, il vous faut ce système. Il faut garder ses rites, il faut garder ses sacrements, il faut faire tant de choses, et si vous faites tout cela assez bien, vous allez arriver à gagner l'acceptation de Dieu. Mais l'évangile véritable est en fait exactement le contraire. Dieu ne vient pas vous parler d'un système que vous devez accomplir, il vient vous parler d'une personne qui a accompli tout ce qui était nécessaire pour vous. Maintenant, je vous donne un petit exemple. Quand le patron d'une entreprise, il veut demander quelque chose, exiger quelque chose de ses ouvriers sur un certain site, qu'est-ce qu'il envoie? Il envoie un message de ce qu'il faut faire, un système, des consignes. Mais quand il veut accomplir quelque chose sur ce site que les gens sur place ne peuvent pas faire, qu'est-ce qu'il envoie? Une personne. Une personne qui peut l'accomplir. Vous noyez dans l'eau? Je ne vais pas vous jeter un livre sur la natation, un système. Même si le livre est très bon, pourquoi est-ce que je ne vous envoie pas un système? C'est trop tard pour vous. Vous noyez. Et il vous faut une personne supérieure à vous qui puisse vous arracher. Et la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils mourir à notre place. Donc, ce texte que l'eunuque lisez avec moi encore au verset 32. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Regardez bien. En parlant de Jésus, le prophète Ésaïe, 700 ans en avance, dit ceci. Il a été mené comme une brebis à l'abattoir. Pensez à la croix de Calvaire. À la crucifixion de Jésus-Christ. Il a été mené comme une brebis à l'abattoir et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'ouvre pas la bouche. Dans son humiliation, son droit a été supprimé et sa génération qui la racontera, car sa vie est supprimée de la terre. Je vais juste ajouter une autre phrase qui paraît dans ce même passage d'Ésaïe. Juste avant ces phrases, il est dit ceci. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous, nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, frappé par Dieu, humilié. Mais il était transpiré à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Vous avez entendu? C'est par ces souffrances que nous sommes guéri. Vous pourrez me demander, mais comment est-ce que ça peut être une bonne nouvelle si c'est au sujet de quelqu'un, une personne, mais au sujet de ses souffrances? Les souffrances de quelqu'un d'autre ne peuvent être une bonne nouvelle pour vous que si ces souffrances étaient une sentence qui vous était destinée et quelqu'un d'autre s'est mis à votre place pour les prendre. N'est-ce pas? Et voilà toute la bonne nouvelle que Dieu, nous méritons, le châtiment de Dieu. Mais Dieu a envoyé son Fils dans le monde pour prendre sur lui-même la faute et la condamnation que nous méritons. C'est tellement incroyable, c'est tellement formidable que tout ce qu'il vous faut, chers amis, pour être réconcilié avec Dieu pour toujours, a déjà été accompli par quelqu'un d'autre dans sa souffrance. Et oui, il vous faut une réponse à cela, mais la réponse n'est pas d'accomplir quelque chose parce que ça a été accompli. Et nous allons voir maintenant quelle est la réponse que Dieu demande de la part de l'eunuque. Donc, le dernier point, pardon, oui, l'avant-dernier point, et j'ai seulement une demi-page de notes, donc restez avec moi. L'étonnante réponse à Dieu et à la bonne nouvelle. Vous me dites, ok, Dieu a fait cela par amour, Christ a déjà tout achevé, tout accompli, c'est une grâce, c'est-à-dire un cadeau que vous n'avez pas besoin de mériter, et que Dieu ne veut pas que vous essayiez de mériter. Il vous aime tel que vous êtes. Il vous changera si vous venez à Christ. Vous ne pouvez pas rester le même. Mais vous ne devez pas changer pour qu'il vous aime. Il vous aime afin de vous changer. Et donc, regardez la réponse au verset 36. Comme ils continuaient leur chemin, ils arrivèrent à un point d'eau et l'eunuque dit, « Voici de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé ?» Philippe dit, « Si tu crois. » Tout en cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus est le Fils de Dieu. » Il ordonna d'arrêter le char. Tous deux descendirent dans l'eau, Philippe ainsi que l'eunuque, et le baptisa. La foi est simplement une main vide qui reçoit ce que Dieu a fait par Jésus-Christ. Il a payé la peine de mes péchés. Ça veut dire qu'il n'y a pas quelque chose à faire, mais quelque chose de fait que je crois, je reçois. Quand il y a un médecin qui vient vers vous, quand vous avez le cancer, et il dit, nous avons trouvé un traitement qui peut donc éradier complètement ce cancer, laissez-moi vous donner ce traitement, qu'est-ce que vous avez à faire? Vous n'avez rien à faire. La réponse n'est pas une chose à faire, mais une chose à laisser faire, à recevoir. Et c'est ça le sens de la foi. La Bible dit que nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres, nos bonnes œuvres, mais par la bonne œuvre de Christ. Et notre part, c'est simplement ce oui de la foi qui dit « Seigneur, merci de ce que tu as fait ». Dans un cœur pénitent, repentant, bien sûr. Et c'est ça le sens du baptême que vous allez voir tout à l'heure. Quand quelqu'un se fait baptiser, le baptême ne le sauve pas. Le baptême ne lui donne pas le salut. Le baptême ne le réconcilie pas avec Dieu. Le baptême est une image visuelle de ce qui s'est déjà passé dans la vie de la personne avec Christ. Et donc, vous allez voir aujourd'hui une mort, un enterrement, sous l'eau, et heureusement une résurrection. Et c'est ça qui s'est passé dans la vie de Pierre. L'ancienne Pierre a été enlevée. Lorsque Christ est venu, il a eu contact avec le livre, il a cru, il s'est donné à Christ. Imaginez l'eunuque dans ce baptême. Il enlève ses vêtements d'extérieur et devant ses esclaves, dans le char, ses serviteurs. Il se met dans la tenue d'un esclave. C'est quelque chose pour un premier ministre. Et il est plongé dans l'eau par Philippe. Et tout le monde voit, parce que c'est très public. Il ose le dire devant tout le monde, qui rentre chez lui, qui vont le dire à tout le monde. Vous savez ce qui s'est passé au maître, ce qu'il a fait. Il s'est converti. Oui, le baptême est public. Le baptême est une manière de s'identifier avec Jésus-Christ publiquement. Parce que quand Pierre va mourir sous l'eau, c'est parce qu'il va nous dire visuellement qu'il est mort avec le Christ. Lorsque le Christ est mort il y a 2000 ans, Pierre, dans la pensée de Dieu, était là. Christ est mort pour lui. Donc il est mort avec le Christ. Et en acceptant ce baptême, il accepte tout ce que Christ a fait pour lui. Donc c'est vraiment un engagement irrévocable, n'est-ce pas? Quand on va sur les eaux du baptême, dans la Bible, les eaux marquent toujours la frontière entre deux mondes. Les eaux de la traversée de la mer Rouge, les Juifs étaient en esclavage dans un monde qui s'appelle l'Égypte. Ils ont été délivrés, ils ont traversé les eaux de la mer Rouge, ils sont venus dans un nouveau monde qui s'appelle liberté. Où, pendant les jours de Noé, Dieu détruit le monde dans sa colère, un monde violent et mauvais et méchant. Il sauve une famille pour recommencer la vie humaine, mais Noé traverse les eaux. Il quitte un ancien monde que Dieu condamne et détruit, et il arrive dans un nouveau monde pour recommencer. Et Pierre fait cela aujourd'hui. Il vous annonce par ce baptême qu'il a, par la grâce de Dieu, qu'il a vraiment quitté un ancien monde pour rejoindre ce nouveau monde avec le Seigneur, dans sa paix, dans son pardon et sur sa voie. La dernière chose à dire au sujet de l'eunuque, c'est simplement l'étonnante transformation de sa vie. Lisez avec moi pour finir les versets 39 et suivants. Quand il fut remonté hors de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus, alors que joyeux, regardez ça, il poursuivit son chemin. Quand Philippe trouve l'eunuque au début, comment est-il? Il est assoiffé, mais il est angoissé. Il est dans la confusion. Comment puis-je comprendre? Il cherche, mais il n'a pas trouvé. Mais regardez, juste quelques minutes après, à cause de la parole qu'il a compris et qu'il a saisie, la bonne nouvelle, le texte nous dit que, alors que joyeux, il poursuivait son chemin. Il arrive, homme joyeux, cet homme qui a trouvé maintenant en Éthiopie pour vivre en tant que chrétien. Et l'histoire nous dit que c'est probablement de lui que l'Église éthiopienne est née. L'église qu'on appelle Copte. Alors, le voilà sur son chemin, mais pas arrogant, parce que j'ai trouvé la vérité, mais plutôt joyeux et humble, parce que le Dieu de la miséricorde l'a trouvé. Et il y a assez dans son passé pour le garder humble, et même dans son présent, mais il y a suffisamment dans son salut pour le garder joyeux. Donc, humble et joyeux, ne prétendant de rien, un pécheur sauvé par la grâce et l'amour de Dieu, il poursuivit tout simplement son chemin, un chemin nouveau. Nous allons chanter le numéro 48. Dans le carnet noir, et ensuite je vais vous expliquer comment nous allons faire pour le baptême de Pierre. Quarante-huit. Ô Christ, éternel rocher. Si j'ai bien raison, non, c'est plutôt 48, 49, 50, 51. Ce n'est pas numéroté dans tous les carnets, mais si vous allez au 48 et vous tournez deux pages, Vous allez trouver au Christ éternel rocher. Au Christ éternel rocher. David, je vais te demander de prier pour le baptême de Pierre, remercier le Seigneur pour sa grâce en Christ et prier pour le baptême que nous allons faire.